Un sol majeur.
Un sol majeur.
Un profil de gueule cassée. Attends, je regarde. Ouais, un petit peu quand même. Une âme de combattant et un prénom, Mohamed, typiquement français dans certains coins de nos banlieues. Revoilà donc Mohamed Rouabhi en sol majeur et tous azimuts, puisqu'il écrit pour le théâtre, la radio, le cinéma, et que son cœur bat pour la poésie palestinienne et les grandes questions sociales de notre temps. Bref, c'est un écorché vif qui se nourrit, mais alors compulsivement, de la vie, mais aussi des livres, des musiques et des films.
Tu sais, aucun homme ne me fait peur, mais quand il faut faire du sentiment avec une femme, alors j'ai l'estomac complètement noué.
Lui, c'était Abel Davos, condamné à mort par contumace. En fuite depuis des années, Davos avait vu son capital s'épuiser en même temps que l'inquiétude le poussait à se déplacer sans cesse.
Pierrot, écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire, c'est très important. Voilà. Dans la rue, on pourra plus marcher ensemble, comme avant. Il faudra que tu marches derrière.
Come and get me!
Ouais. C'est fini, on n'en fait plus des films comme ça.
Où l'on apprend que donc vous êtes un fou de cinéma, Mohamed. Tous ces extraits que Marco nous a mixés, c'est quand même vous qui nous les avez envoyés.
Bien sûr, ce dernier truc, c'est super, c'est Charlton Heston avant qu'il devienne vraiment con. C'est dans Le Survivant, ce film extraordinaire. Il traverse New York comme ça, il rentre dans un cinéma, il garde sa bagnole, il rentre truc, il envoie un film, il se met dans la salle, il regarde et c'est Woodstock. Et Woodstock, il regarde comme ça, il allume une clope, il dit ouais, on n'en fait plus des films comme ça. Non, j'adore parce qu'il est devenu tout. Il est devenu complètement tout l'extrême.
Donc amoureux d'un certain cinéma français et pas que français. Film des années 50, film d'action, c'est ça qui vous...
Ouais, et puis ouais, jusqu'à 60, 70, même 80, même là maintenant, des trucs qui sortent que je pirate sur le... Oh merde, fallait pas que je dise que je pirate des trucs. Oh, Sarkozy va pas être content. Dedans, il y a juste un truc. Il y a Classe tout risque et c'est Lino Ventura qui est dans l'église avec le petit gamin. Ça, c'est un truc, ça me... tout de suite. C'est pas parce qu'on en parlait de ça, mais à chaque fois cette séquence, elle me fait penser à une chose précise quand il lui dit tu vois maintenant dans la rue quand tu vas marcher, tu marcheras derrière moi. Et s'il y a des gars qui, parce que vous l'avez pas mis en entier, le réalisateur Marco, il l'a pas mis en entier, il a mixé.
Ça importe autour de vous en même temps.
Mais il y a juste il lui dit, et si tu vas voir, et si à un moment donné tu vois des gens autour de moi, si je me fais attraper, tu t'en vas. Surtout tu dis rien. Ça me fait tout le temps penser, à ce que vivent aujourd'hui en France des gens qui sont chassés par la police, que ça soit ou bien dans des espèces de dépotoirs de décharge comme à Calais, comme etc. ou à Paris où on attend au coin des rues des enfants, des gens, on fait des petites rafles, des petits trucs pour choper des gens basanés, des gens qui ont pas leur papier, qui rasent les murs et qui bossent et qui font tourner l'économie en France quand même. Donc si vous voulez, cette séquence, elle me bouleverse. En plus il lui dit tu vas à l'église, ça fait penser à Saint-Bernard et tout. Non, Classe tout risque, ce film, il est voilà, c'est...
Et moi ça me rappelle une phrase que vous avez dite lors d'une interview, Mohamed Rouabhi, j'ai renoncé à ma langue et à ma religion, épousé une Normande puis une Savoyarde, donné un prénom français à mon fils, et même voulu changer de nom. J'ai tout fait pour m'amputer de quelque chose, ça n'a servi à rien, je me suis accepté.
Ouais, je sais pas, vous avez trouvé ça où c'est... Ouais. Ben oui, parce que c'est j'ai pas fait une grosse thérapie, j'ai pas suivi un analyste pendant longtemps, payé de l'argent, tout ça. Le boulot, je l'ai fait tout seul, des fois, violemment, en étant blessé, etc. Il m'a fallu du temps, j'ai 44 piges aujourd'hui, mais il m'a fallu du temps, mais je l'ai fait le boulot. C'est-à-dire aujourd'hui, je me suis débarrassé de ça. Je suis tranquille, ça veut pas dire que je suis pas en colère, que je suis pas...
L'Algérie, vous en avez fait quoi, au fond?
L'Algérie, c'est pas mon pays. Mais non, c'est pas mon pays. Je n'y vis pas. Je n'ai pas de maison là-bas. J'ai évidemment de la famille là-bas, mais ce n'est pas mon pays. C'est un pays, oui, qui est dans mon cœur, comme peut-être Darwish. La Palestine, c'était quelque chose qui était, dans son cœur quelque part. Hein. Mais à partir du moment où Darwish est revenu là où il avait vécu, au fond, ce n'est plus la même chose. Et vous savez, je vais vous dire un truc, Yasmine. Là, quand j'ai rencontré Darwish, quand on était dans le petit à la Sorbonne, avant de rentrer sur scène, etc. Darwish fumait sa clope. À l'époque, on pouvait fumer dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On pouvait fumer tout court. Et il m'a dit, en français, il m'a dit, l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde. Et franchement, j'étais... Et il m'a tué juste avant de rentrer sur scène, il m'a dit ça.
Donc c'est pas votre pays, mais vous êtes fier d'entendre cette phrase.
Mais c'est le plus beau pays. Oui, mais c'est pas un truc de nostalgie ou de dire oui, l'Algérie, oui, bien sûr, j'ai été en Algérie.
Et vous avez été en Algérie, mais vous avez surtout fréquenté les petits cafés nord-africains, vous savez, les petits boui-boui, c'est comme ça qu'on appelle ça tendrement.
J'ai fréquenté tous les cafés.
On pouvait écouter un certain Salah Saadawi.
Ah oui, alors Salah Saadawi.
Pure merveille.
Alors attention, je dédicace spécialement ce morceau à Mohamed Rissani, Salah Saadawi.
Dédicace,
Méditerranée.
Le pauvre, il mange rien. Allez, allez, adieu la France. Allez, adieu la France. Mon bonjour aux hommes bien. Mon bonjour aux hommes bien. Fais mon déménagement, la vie de l'immigré est triste. Du travail y a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré est triste. Du travail y a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Le temps que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. Ça allait très bien. Dès le temps que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. Je retourne en Algérie, ça commence à aller très bien. Bientôt je vous fais un pari, on sera mieux que l'Irica. En Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail y a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. On ne dira jamais bico comme souvent l'a fait en France.
Extraordinaire, Salah Saadawi. Ah ouais, c'est un document vraiment en sol majeur.
Attention, vos cassettes font enregistrer là.
Et dans le programme de notre invité Mohamed Rouabhi, auteur, comédien, metteur en scène français avec des origines très en colère.
Professionnellement, y a-t-il des situations où vous avez ressenti de l'injustice ?
Alors il faut que je dénonce des gens. Il faut que je dise des noms et je vais toucher de l'argent. Parce qu'en Angleterre, maintenant, on dénonce et on touche de l'argent, vous avez vu ?
Vous remarquez, en France, ça risque d'arriver.
Ah ouais, les gens sont tellement dans que peut-être ça va les aider, peut-être.
Comment c'était dans la cour de récré ? C'était pas top, hein ?
Non, la cour de récré, j'étais avec un mec qui s'appelait Salem, qui était un juif. J'étais avec un autre gars qui s'appelait Manuel, qui était un portugais. Et j'étais avec un réunionnais, un noir, qui s'appelait, je me rappelais plus. Et voilà, en plus, on faisait faisait du foot ensemble, on allait les uns chez les autres, voilà. Et c'est bizarre, donc, je sais pas, il n'y avait pas d'histoire de trucs de race ou de machin, mais curieusement, on se retrouvait entre gens un peu bizarres.
Parce entre que Salem, gens de faciès, c'est
ouais,
ça.
Ouais, parce que Salem qui était, donc, qui était, moi, et, en plus, j'ai, avant de faire le ramadan quand j'étais petit, j'ai fait le shabbat. C'est-à-dire que oui, parce que j'allais chez Salem et puis on faisait le shabbat. Donc, je mangeais, c'était sympa, il y avait ses frères, mais c'était, voilà, après j'ai fait, voilà, après il y avait ses potes et on était ensemble, on faisait des trucs et on n'était pas particulièrement mauvais ou particulièrement vindicatif ou on subissait pas forcément du racisme. À l'école, non, c'était surtout une espèce de truc entre les profs et nous, ça c'est sûr. Il y avait une prof qui était martiniquaise. Bon, c'est pas parce qu'elle était martiniquaise, évidemment. Attendez, vous avez pas téléphoné pour dire c'est quoi qu'il a contre les martiniquais? J'aime les martiniquais. Et Mylène Wagram. Tout particulièrement. Et non, c'était terrible parce que les
profs... Non, pour être sérieux, à travers vos spectacles, on a vraiment la sensation que vous nourrissez une éternelle colère d'enfants d'immigrés et que la France, elle a tout faux sur la question. Attendez, vous me dites après, je vous dis d'abord, vous me dites après. Ouais. On a l'impression que la France, elle a tout faux sur notamment la question de l'immigration. Bah, vive la France, c'est quand même, c'est ça en partie, ça traite de ça. Elle a tout faux sur l'histoire de l'identité nationale, sur son inventaire qu'elle ne fait pas par rapport à la colonisation.
Oui, mais c'est vrai. Mais elle a tout faux. C'est pas tout le monde a tout faux parce que on a hérité de beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, à chaque fois, je vous dis, je prends un exemple. Il y a quelques années, la une du Monde. Il y a pas très très longtemps. Il y a quelques années. Deux jours de suite, ils ont fait la une du Monde sur Maurice Papon. C'est quand même extraordinaire, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, après la guerre d'Algérie, que Maurice Papon fasse encore la une du Monde et fasse encore bouger les choses comme ça. Vous savez, quand il a été condamné, quand on l'a sorti de la prison de la santé, pour des raisons de santé, justement. Ah. Mais le problème, c'est que on en... C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on ne prend pas en charge toute cette mémoire, tous ces, voilà, notre histoire, on la prend pas en charge ici, et ça se passe à tous les niveaux, que ça soit dans l'urbanisme, que ça soit sur les livres scolaires, de la manière dont on enseigne les choses. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des Français qui viennent de partout, enfin, en tout cas dont les origines, viennent de partout et beaucoup d'anciennes colonies. Mais je suis sidéré quand je vois des gamins qui ne savent pas, leur ancien pays qui était le Burkina ou le Mali appartenait, était un truc français. Bon, je trouve ça fou, quoi.
Vous la voudriez comment, vous, la France d'aujourd'hui, s'il fallait relooker notre Marianne, s'il fallait revisiter, comme l'a fait autrefois un certain Gainsbourg, la Marseillaise?
Mais moi, je sais pas, j'ai pas de solution. Moi, j'essaie dans mon petit truc, dans mon petit coin, d'apporter des petits machins.
Vous devez bien avoir des petites idées, moi.
J'ai des idées, mais des petits trucs. Mais on fait de l'artisanal, on fait des trucs, c'est pied à pied, c'est voilà, on gagne du terrain.
Vous la voulez toujours les cheveux blonds aux yeux bleus, la Marianne française, ou pas?
Mais moi, c'est comme dans le film Panitch. J'aurais bien aimé avoir les cheveux blonds et les yeux bleus et puis dire Viva Italia! Oh là, c'est là où il se fait griller. Mais non, ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est important de c'est un travail de tous les jours. On le fait tout le temps, tous les jours. Il faut répéter, re-répéter les choses. Et puis, il faut aussi se bagarrer sur des choses qui sont, pour moi.
Vous vous sentez proche, par exemple, d'un mouvement comme celui des indigènes de la République qui dénonce la France comme n'assumant pas son passé colonial? Ça, c'est un mouvement que vous rejoindriez ou pas?
Non, pas du tout. Non, je l'ai pas fait. Je l'aurais. Non, c'est pas. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui véhiculent, qui racontent des fois. Désolé de dire, des bêtises qui des fois mettent le doigt sur des choses qui sont importantes. Après, c'est toujours la manière dont on va revendiquer, porter une espèce de chose, une parole qui est pour moi à chaque fois limitée. C'est-à-dire que je me limite pas simplement à ça. Je vous disais tout à l'heure, j'habite à Drancy. Je dis par exemple que notre histoire, l'histoire de la déportation, l'histoire des rafles de juillet 42, des juifs dans Paris qui étaient des citoyens français à qui on a retiré la citoyenneté française comme on a voulu le faire en 2005 lors des émeutes, par exemple. Lorsqu'on certains députés ont proposé, si ça c'est pas notre histoire, alors c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours laisser alors l'histoire des juifs aux juifs, l'histoire des noirs aux noirs, l'histoire des arabes aux arabes. Chacun reste dans son truc, défend son machin, et alors on va où comme ça? C'est tout pourri, ça. J'en veux pas de ça, moi.
Quelle ville où y aime le plus? Quelle est votre ville de cœur?
Ah, moi j'aurais aimé une ville de cœur qui soit une ville qui s'étende sur plusieurs continents, sur de l'eau, sur du ciel, sur de... Mais bon, puisqu'il fallait en trouver une, et c'était Ramallah, puisque J'y suis resté presque 4 ans.
Vous avez travaillé de 98 à 2001 hein, dans les territoires occupés. Vous y avez écrit et mis en scène 2 spectacles en arabe. Vous avez fait des ateliers de chant avec les enfants de Ramallah. Donc, c'est en tant que militant, il y a quelque chose qui se joue vraiment entre vous et la Palestine.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je dirais comme Jeunet disait, le jour où les Palestiniens auront un pays qui s'appellera la Palestine, un État, une police, une armée, des gens en prison, etc., ça ne m'intéressera plus. Mais je pense que le destin des Palestiniens, s'ils veulent avoir un État, c'est leur problème, c'est leur histoire. C'est leur histoire à eux, il faut leur laisser, il faut surtout pas les déposséder, comme on a des Dieudonnés, des machins qui utilisent toujours les Palestiniens pour ramener leur connerie derrière. C'est insupportable d'utiliser toujours les Palestiniens qui ont été délaissés, il faut le dire quand même, le rappeler, par tous les pays arabes allègrement pendant des années, surtout ça a été les premiers responsables de pourrissement de la situation, et on utilise toujours, on va chercher les Palestiniens pour balancer des bombes sur Jérusalem, on va chercher Saddam Hussein, va utiliser les Palestiniens pour là, ici si on a Dieudonné, faut les laisser tranquilles à leur destin, à leur histoire, dans leur truc. Maintenant moi je travaille avec des gens qui sont qui étaient dans des camps, des gens qui étaient des enfants, des gens qui avaient une vie incroyable, qui étaient aux États-Unis, qui vivaient au sud Liban, d'autres qui étaient dans le camp de Sabra, et qui sont...
Comment vous vous y sentez, vous, à Ramallah?
C'est-à-dire, au début, je vais vous dire un truc, c'était bizarre, parce qu'au début, je sortais dans la rue, puis j'entendais « Ahmad !» Je me retournais à chaque fois, je me disais... Mais après, j'avais une espèce de petit... J'étais un peu tendu. Et en fait, je me disais « Tiens, mais je suis bien ici, en fait. » Parce que les gens, ils s'appellent... Ahmad, ils appellent, et puis, en fait, je suis pas... c'est pas pour me demander mes papiers, ou c'est pas pour me dire un truc bizarre. Et d'un seul coup, je me suis senti bien dans une ville arabe, dans une ville où on parlait arabe, mais qui n'était pas le Maghreb, qui n'était pas l'Algérie. Donc il fallait que je, un peu comme si je délocalisais un peu, mon histoire, tout ça, mais... Voilà, j'ai rencontré des gens, des fédaïnes, des anciens fédaïnes, j'ai rencontré des familles de martyrs, mais pas simplement, j'ai rencontré des gens qui faisaient du business dans la rue, des poètes, des gens qui écrivaient, des lascars, j'ai rencontré des petits voyous, de tout, des femmes, des hommes, des gens du Hamas, des gens du Hezbollah, des gens du Fatah, mais c'était... c'était un peu l'âge d'or, comment dire, après les accords d'Oslo, c'est-à-dire que il y avait une espèce de chose qui était une frénésie de construire, d'écouter de la musique, de télécharger de la musique, d'acheter des trucs, c'était super bien, quoi.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Il y a 40% de Français, et donc dans cette salle, il y en a 40%. Hein? Il y a 40% de connards de Français qui sont à l'heure actuelle énervés de voir qu'il y a des étrangers qui travaillent en France. J'ai remarqué que ce qui vous fait le plus chier, c'est surtout que ce soit des Arabes qui travaillent en France. Ça vous emmerde, hein, qu'il y a des Arabes qui travaillent en France. J'en ai déduit que ça vous emmerde tellement que c'est parce que vous êtes jaloux du travail que font les Arabes. Voilà. C'est ça, hein, j'ai touché le point, hein, le point sensible. Vous êtes jaloux du travail des Arabes. Vous voudriez faire ce que font les Arabes, c'est-à-dire vider les ordures tous les matins, creuser des tranchées dans le sol à 40 degrés de chaleur à l'ombre. Je sais, tu me diras pourquoi aller à l'ombre. Vous voudriez, comme les Arabes, faire les fondations des maisons dans l'eau glacée jusque-là, parce que si vous comptez sur moi pour le faire, il faut pas y compter du tout. D'ailleurs, les Arabes en France, ils ont tellement bien compris que c'est eux-mêmes, les Arabes en France, qui engagent les Portugais.
Vous nous présentez l'oiseau, droit pris.
Alors ça, c'est... Attention, ça déjà, c'est une spéciale dédicace. Ah ouais, faut que je dédicace les morceaux pour Edmond Ben Simon. Ben, mon ami, je sais que tu écoutes. Alors ça, René Cousigny, c'est spécial pour toi, dédicace, mon frère.
Dis René Labranlette.
René Labranlette, oui, bon, après, faut être un petit peu poli. René Cousigny, c'est pour moi... On a tout pompé sur René Cousigny.
Mais c'est... qui c'est?
Ah, René Cousigny, vous pouvez pas le télécharger sur Internet, les Jones, là. René Cousigny, il existe en vinyle, simplement, il a fait une dizaine de disques. C'est un juif algérien qui a fait des études de biologie, etc., et qui avait une espèce de petit cabaret en Algérie, et qui racontait des blagues et écrivait des chansons comme ça avec son humour. Et ensuite il est venu à Paris, il avait un petit cabaret à Montmartre, et tous les soirs il faisait sa soirée, son sketch. Donc les gens venaient vers 11h, il faisait une heure d'éducation sexuelle, il racontait comment ça se passait les années 70, hein, déjà le gars, il fallait mettre la capote, ça voulait pas crever, nanana. Ensuite après il faisait des blagues, et ses disques, par exemple, ça c'est l'extrait qu'on écoutait, c'est un extrait d'un disque qui s'appelle Racistement Vôtre, et c'est un type extraordinaire.
Comment vous définiriez son humour?
Moi je dirais c'est une espèce d'humour, je sais pas, libertaire, mais un truc de fou. Il fait des trucs sur les Italiens en Éthiopie. C'est un anticolonialiste terrible. Il déteste les religions. Lui-même, voilà. Alors, il y a un disque, des trucs sur des histoires juives, mais c'est terrible. C'est, aujourd'hui, on peut pas passer un truc comme ça. Ni les trucs sur les Noirs, ni sur les Français, ni sur les Arabes. Il fait des trucs sur tout le monde. Sur les Italiens en Éthiopie.
Il va plus loin que Coluche, par exemple, en son temps. Attendez,
Coluche, c'est un, je suis désolé de le dire, mais franchement, Coluche, il a tout pompé. Il a pompé énormément de trucs sur René Cousinier. C'est clair et net. Aujourd'hui, ça, c'est notre patrimoine, ça. René Cousinier, c'est un truc, c'est... Voilà, il faut le rééditer, il faut l'écouter partout. C'est un tueur à gages.
L'humour et le racisme, en plus, on sait que ça fait quand même difficilement
bon
ménage.
Mais là, justement, alors, oui, vous pouvez écouter le truc, on peut les taxer de tout ce qu'on veut, mais certainement pas ni de racisme, ni d'antisémitisme, de rien du tout. Et justement, il y a une espèce de force dans ce qu'il raconte, c'est dévastateur.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison ?
J'imagine un foutoir extraordinaire chez moi. Une
Yasmine.
Explosion de livres, de bandes magnétiques. Vous enregistrez tout ce qui bouge. Hein. Moi, mes droits fliques, je ne sais pas
attendez,
à quoi ça correspond.
Vous êtes en train de décrire le bâtiment des renseignements généraux, quoi.
Peut-être.
Ah, non,
c'est
non,
comment
non.
Chez vous, alors ?
Chez moi, c'est comment ? Bah, c'est petit, c'est une ancienne maison d'ouvriers qui date des années 20, je crois, un truc comme ça. C'est en face de la cité de la Muette, hein, cité donc de transit, où... non, mais je le redis, parce que... oui, voilà, où il y a les rafles du Vélodrome d'hiver, hein, c'est le 17 juillet 1942, où voilà, j'habite en face. Et alors chez moi il y a un petit jardin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Bah, j'ai l'impression que vous êtes encerclé et assailli par les bouquins.
Ouais, il y en a beaucoup parce que avant je vivais dans un grand truc très très grand et puis après il a fallu que je mette tous les trucs qui étaient dans ce truc très grand dans un truc un peu plus petit.
Il vous est arrivé des mésaventures, je le sens. Oh, sinon l'idée de la maison, c'est une idée qui vous plaît ou c'est une idée de petit bourgeois à laquelle vous vous êtes adapté ?
Mais enfin, c'est la chose la plus. Enfin pour moi c'est une chose qui à un moment donné à une époque était très très importante et ça l'est aujourd'hui d'autant plus aujourd'hui où il y a quand même on définit ceux qui n'ont pas de maison comme étant des sans logis, hein, ceux qui n'ont pas de papier comme étant des sans papiers. Donc que ça soit la carte de nationalité française, la carte de séjour, de résidence que vous voulez, que ça soit la maison, le toit, aujourd'hui ceux qui n'ont pas de toit, qui ne sont pas qui n'ont pas de papier sont des pestiférés. C'est le nouveau sous-prolétariat, la nouvelle misère en France et qui éclate, qui sort de partout. Je sais pas, vous prenez... Moi, je prends le périph' tous les jours pour venir. Eh ben, voilà, on va visiter le petit...
Donc, vous avez une maison, vous avez des papiers, vous avez un boulot, vous êtes un Français heureux ?
Ah, il y a deux, je suis un Français heureux. Heureux, oui, c'est des petits bonheurs qu'on essaye d'extirper un petit peu de la mouise de tous les jours. Mais c'est important pour pouvoir aussi vivre, continuer à
vous
se bagarrer.
Vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous êtes un Français heureux d'être Français ?
Heureux d'être français. Non, alors je vais en fâcher certains. Non, surtout pas quand je vois la sélection qu'a fait Raymond Domenech pour l'équipe de. Non, je le dis quand même parce que pour les îles Féroé, là, franchement, faut mettre Benzema. C'est pas possible. Là, franchement, j'ai honte. Là.
C'est votre limite.
Ouais, là, je peux plus là.
En sol majeur @rfi.fr.
Et puis, vous pouvez aller voir ce que Thomas Ferrière, notre webmate, vient de déposer sur notre Facebook et notre blog deuxamours.blogs.rfi.fr. Vous verrez, il y a sûrement une pépite, un extrait de l'émission avec Mohamed Rouapri qui va probablement vous poser une question en sol majeur. On va voir ça tout à l'heure. Merci, moi. Je rappelle que vous interprétez, que vous mettez en scène Discours de l'Indien Rouge et Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish à la Maison de la Poésie à Paris jusqu'au 22 novembre. Et puis, on va se quitter avec une dernière musique en sol majeur. Une merveille encore. Il s'agit de Knan featuring Mos Def and Chali Tuna. Je sais pas si j'ai bien dit. Présentation, traduction, exécution.
Qui c'est ? Vous voulez dire qui ? Quoi ?
Hein ? C'est qui ça, Knan featuring Mos Def and Chali ? Il sait même pas ce qu'il a programmé.
Mais c'est des noirs, c'est des noirs qui font de la musique, hein. C'est normal, hein. C'est vrai. On sera dans la peau, comme on a dit, hein. C'est vrai, madame. Non, c'est un morceau. En plus, je l'ai écouté chez vous, je l'ai écouté ici, enfin sur RFI. C'est un truc, ça.
C'est votre maison, RFI.
Ça
tue. Hein.
Ouais, non, puis je voulais un truc de rap, mais pas du rap de chez nous, du rap de. Du vrai rap, quoi, qui tue, du rap Afrique et États-Unis. Voilà, faut écouter ça, c'est mortel.
Sitting outside of my old home, and when I was young and singing something like قبري انا سبحانه مر الشبه اللي حيرته مر قفيفة هوته مقع عاقة إيشك مقع إيقوة شرف شرف حاجي ويان أقل هذا حريخته لنع بنك الجوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلوم بدني هذو حلك جيرة حسوس بدني صاحب تا عشا عشق بيت قلي وقدم بيستنا أنا يقيلوب وقوب نام بحن ونقي أردني نبد بريني مريكن والاقة سوايي مريكن والاقة سوايي مريكن والاقة سوايي ونقي أردني نبد بريني مريكن والاقة سوايي مريكن والاقة سوايي مريكن والاقة سوايي. There are certain things fresh and certain things mesh. I got my own sound, I don't sound like the rest. And even my attire and my choice of dress. And not long ago, I don't spoke English. The point is, police pull me over a lot. They wonder what type of rap seed I got. And sometimes I take a young girl out to eat and hold the door open, oh, you're so sweet. Of course, my affection's super illustrated. And I like to give, don't reciprocate it. Unless you can give me something innovated. And let's cook it up, we don't refit. But back to this country of the educated, where people get robbed and they celebrate it. Wanagi orde na bad parine, mareken wala gasoye, mareken wala gasoye, mareken wala gasoye. Wanagi orde na bad parine, mareken wala gasoye, mareken wala gasoye, mareken wala gasoye, mareken. My conceit is of thee, sweet land for robberies, dope smoking SUVs, red meat and army green, fat and frilled, bills and spills, eat and sleep, pump and kill, shop to your job, work to your day.
Caroline Fillette, Marc de l'Ouvrier, Richard Efono, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain autour d'une âme nigériane chroniqueur star à RFI, il s'agit de Maman Yo sur RFI.